marche du monde.
À 6h du matin, M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, fait connaître à la presse allemande et internationale la note adressée par le gouvernement du Reich au gouvernement soviétique. De l'océan glacial arctique jusqu'à la mer Noire, soit sur un front de près de 3000 km, les forces allemandes ont pris position. Les divisions finlandaises et roumaines marchent aux côtés des armées du Reich. L'Italie, la Hongrie, puis la Slovaquie se sont jointes à la croisade anti-bolchevique.
Nous voici donc sous occupation allemande, écrit Maria, une jeune institutrice soviétique. Que d'inquiétude, que d'attente aussi avant qu'il n'arrive. Mais il ne s'est rien passé. Non, rien de nouveau, qu'un changement fondamental, mis à part qu'il n'y a plus de coopératives, plus de postes, plus de soviets ruraux, et que nous sommes revenus au système d'avant, à l'exploitation individuelle. Moi aussi, je travaille maintenant comme tout le monde, chacun pour soi. Il ne me reste qu'à labourer, semer, faucher, moissonner, hercer, moudre. Aurais-je fait 10 ans d'études en vain ? Maria est une jeune fille de 19 ans lorsque l'Allemagne envahit l'URSS et jusqu'en 1943, elle va tenir son journal, mis en lumière par la traduction et la présentation de notre invité historien, Nicolas Werth. Avec sincérité, humour et intelligence, Maria annonce la couleur dès les premières pages de son journal. « J'ai consigné sur ces pages toutes mes pensées, toutes mes souffrances. Je n'ai rien embelli. » Je n'ai pas mis de phare, je n'ai fait que rapporter la vérité. Du coup, c'est peut-être un peu sec, pardonnez-moi. Je ne suis pas poète, je suis écrivain. Penser, écrire, rêver sous le Troisième Reich, c'est ce que fait Maria Yakovlevna Germanova en Union soviétique. C'est aussi ce que choisit de faire Charlotte Berat quelques années plus tôt en Allemagne. De 1933 à 1939, elle se livre à une curieuse entreprise puisqu'elle se met à collecter en secret les rêves de son entourage pour témoigner de la façon dont la dictature malmène les âmes.
Je rêve qu'en rêve, par précaution, je parle russe pour que je ne me comprenne pas moi-même et que personne ne me comprenne si je disais quelque chose à propos de l'État. Parce que c'est interdit et que cela doit être dénoncé.
Rêver sous le Troisième Reich, c'est le livre publié en 1966 en Allemagne par Charlotte Berat et préfacé dans sa version française par notre invité philosophe Martine Leibovici.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bonjour Martine Leibovici.
Bonjour Valérie.
Bonjour Nicolas Werth.
Bonjour Valérie.
Nicolas Werth, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, et que vous publiez aux éditions Autrement, le journal de Maria, un document inédit, et j'ajouterai iconoclaste, une archive personnelle, qu'en quelque sorte vous sauvez littéralement en l'éditant. Pourquoi ce choix ?
En fait, c'est Oleg Nikolaïev qui, lors d'une expédition, il y a déjà plus de 10 ans, était tombé avec d'autres ethnologues sur ce gisement assez extraordinaire, c'est-à-dire dans un petit village de la région, au sud de Leningrad, entre Leningrad et Pskov, dans un petit bourg. Ils avaient découvert dans une maison de la culture une masse de plus de 300 cahiers, journaux intimes, donc tenus par une institutrice, Maria Germanova, entre 1939 et 88, pendant...
1988, donc, bien au-delà de 43.
Ah oui, absolument. Bon, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la force physique d'emmener ces 300 cahiers, donc ils en avaient pris qu'une petite quarantaine. Et puis, 3 ans plus tard, lorsqu'ils sont revenus, eh bien, tous les autres cahiers avaient été jetés à la poubelle parce que c'était dans une maison de la culture et la dame à qui Maria Germanova avait donné ses cahiers pour les conserver dans la maison de la culture était partie à la retraite et puis bon bah voilà, comme ça arrive souvent malheureusement, on a tout jeté à la poubelle et donc il n'est resté que 40 cahiers. qui avait été ramené par cette expédition ethnographique à Saint-Pétersbourg. D'abord, bon, moi j'ai traduit, mais on a dû faire d'abord un énorme travail de coupe, parce que pas plus de 600 000 signes sur les 2 millions et quelques, dont il a fallu faire malheureusement un travail de coupe, ce qui est toujours dommage. Ça a été assez compliqué, mais bon, voilà, je pense qu'on y est arrivé.
Alors, présentez-nous, Maria, l'institutrice écrivain, comme elle se présente elle-même, une jeune fille qui écrit dans son journal ne pas adhérer au Parti communiste, car elle n'a pas le temps, elle doit diriger sa chorale.
Oui, c'est ça, c'est un personnage, je dirais, vraiment, j'ai trouvé très original, très, bon, il y a une vraie personnalité. Bon, alors, elle est née en 1922, elle a fait ses études d'institutrice, et au fond, elle est véritablement cette première génération d'intellectuels soviétiques, issus d'un milieu rural, vraiment tout ce qu'il y a de plus rural. Tous ses parents, grands-parents étaient des paysans du coin, un petit village pas très loin de la frontière estonienne. C'était en plus une zone frontalière entre l'URSS et l'Estonie dans les années 30. Et puis, bon, comme on encourageait d'ailleurs les jeunes, à la fois les instituteurs, mais aussi des jeunes ouvriers à tenir soit des journaux de production, soit des journaux intimes, parce qu'on considérait que au fond ça faisait partie d'être cultivé et au fond de d'être une forme d'homme nouveau. Enfin bon, voilà, travailler sur soi, tenir son journal de production. Et comme elle savait assez bien écrire, elle a commencé tout naturellement, lorsqu'elle était à l'école normale, à écrire son journal. On avait les cahiers de 38-39, ces deux années d'école normale, mais ils n'étaient pas très très intéressants. Bon, elle parle beaucoup de ses professeurs, de son enseignement, enfin de ses stages, de ses intrigues amoureuses. Mais par contre, ça devient vraiment intéressant à partir du 22 juin 41, lorsque arrive l'invasion, qu'elle découvre lors d'un voyage à Leningrad, où elle est allée avec sa mère. Et puis voilà, la guerre éclate. Et évidemment, sa vie est totalement bouleversée, parce qu'elle devait prendre son poste à la rentrée, au 1er septembre. Et évidemment, comme la région est envahie par les Allemands très tôt, dès la mi-juillet 41, plus question d'avoir son poste. Et puis, elle voit tous les changements, elle va décrire ces changements, et c'est la citation que vous avez mis en exergue dans la présentation.
Et voilà, Nicolas Werth, rien ne change pour Maria, mais à la fois tout change avec cette invasion allemande. Comment ça se traduit dans son quotidien ? Donc déjà, elle ne peut pas prendre ce poste d'institutrice, mais surtout, elle va être ramenée en quelque sorte à sa condition paysanne.
Voilà. Et donc, pour elle, c'est une catastrophe personnelle, parce que, bon, d'accord, elle ne peut plus être enseignante. Toute son idée et sa volonté, c'est de s'en sortir, de ne plus être resté dans la boue, dans le fumier de la vie paysanne, pour devenir institutrice. Alors, ce qui est remarquable, c'est que justement, elle va décrire avec une très grande honnêteté, une très grande finesse, au fond, tous ces bouleversements dans son village. Ça permet d'avoir une sorte de petite micro-histoire qu'on a finalement quasiment pas.
Et certainement pas avec les archives soviétiques.
Certainement pas avec, oui, absolument, les archives soviétiques. Et donc, évidemment, c'est très iconoclaste, parce que un, on voit qu'il n'y a pas d'un côté les partisans et de l'autre les collabos. On voit donc que chacun essaye de s'adapter en fonction des situations. Et puis une chose extrêmement aussi originale, c'est qu'au fond, on n'a pas du tout, du moins pour les deux premières années de l'occupation dans ce petit village, on n'a pas du tout l'occupation d'une extraordinaire brutalité qui caractérisait d'autres régions de l'Union soviétique. Tout simplement parce que c'est pas une région stratégique pour les Allemands. Il y a en tout et pour toute cette grande région quelques 8000 soldats qui occupent un territoire immense, assez peu peuplé, et au fond, ils voient très peu d'Allemands. Et quand il y a quelques détachements d'Allemands qui passe par les villages. Je pense, j'ai calculé que au cours des 6 premiers mois d'occupation, il ne voit que 4 ou 5 fois quelques Allemands passer dans le village. Et notamment, par exemple, elle décrit ces rencontres extraordinaires entre les jeunes gens, les jeunes filles du village et puis les Allemands. Et comme je dis dans la préface, ça ressemble plus à la description que fait Irène Nimerowski dans la suite française, dans la deuxième partie, d'une occupation, disons, correct que l'image qu'on en a d'habitude.
Écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivelon.
Ce qui me frappe beaucoup, et sans doute ça ne vous a pas échappé non plus, Martine Lebovici, vous êtes philosophe, que ce que Maria écrit, c'est aussi qu'elle revient sans cesse sur son sentiment de retour en arrière en ce qui concerne son statut de femme. Elle décrit les mesures prises par l'occupant allemand comme des mesures qui la ramènent en arrière.
Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi en lisant le livre, le journal de Maria, c'est à quel point tous ces gens font la fête. C'est-à-dire que c'est hallucinant, le nombre de fois où elle dit « on a été chanté, on a été dansé, j'ai pris ma guitare », mais ça revient, je trouve, très 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 souvent.
Oui, il y a toute une sociabilité villageoise, oui, absolument. Et voilà, on est, je ne dis pas dans une occupation joyeuse, pas du tout, mais enfin, on s'adapte. Ils font beaucoup la fête, ils vont chez les uns, chez les autres, et en même temps, il y a toutes ces attitudes extraordinairement variées vis-à-vis de l'occupant, parce qu'à la fois, les Allemands viennent danser avec les jeunes filles de temps en temps, mais en même temps, elle a mauvaise conscience de danser avec les occupants. Ensuite, les choses se compliquent encore parce que, en fait, les troupes d'occupation sont à cet endroit-là majoritairement composées de troupes auxiliaires, parce que bon, les Allemands ont autre chose à faire que de surveiller tout ce qui se passe dans ces petits patelins où il ne se passe pas grand-chose. Et donc, ça va être des Cosaques, des Ukrainiens qui participent dans les troupes auxiliaires allemandes, qu'elle appelle d'ailleurs des Russes allemands, c'est assez une belle expression. Voilà, et en même temps, elle doit s'adapter. Et une des choses les plus extraordinaires, c'est que dans ses écrits, on voit qu'elle revient parfois sur ce qu'elle a écrit en relisant quelques mois après, et puis elle va faire quelques corrections. Par exemple, quand elle apprend qu'on va recruter de force, d'ailleurs, mais enfin, il y a eu aussi des volontaires, des jeunes pour aller travailler en Allemagne, elle dit « Oh, qu'est-ce que j'ai envie de partir en Allemagne ?» Et en même temps, après, elle biffe le passage où elle dit « Pas du tout ». C'est extrêmement intéressant de voir comment elle reprend toutes ces choses, bon, dans un véritable hypertexte, enfin, à côté du texte.
Et donc, Nicolas Werth, vous nous racontez le journal de Maria, petite institutrice soviétique sous l'occupation allemande. Je rappelle que Maria est une jeune femme de 19 ans. Elle se définit elle-même comme une jeune fille distinguée, puisqu'à la différence des paysannes, elle porte une montre, pratique assidûment la lecture et la musique, et maîtrise parfaitement le foxtrot. Maria est une institutrice soviétique dans la guerre et elle livre ses pensées à son journal intime révélé par votre traduction, Nicolas Werth. Des pensées patriotiques qui se traduisent aussi par des actes forts. De quoi est-elle capable, votre Maria?
Ben, elle est capable, par exemple, le 1er mai 42, de rassembler une dizaine de jeunes filles du village et puis d'aller au cimetière déclamer l'international, des chants patriotiques. Et en même temps, ça ne l'empêche pas, quelques mois plus tard, parce qu'elle a tellement envie de continuer son métier, de repasser les examens sous les troupes d'occupation, et pas seulement sous les troupes d'occupation, enfin, elle doit, sous les autorités d'occupation, et sous, au fond, les autorités de collaboration, puisque on lui demande d'écrire, entre autres, une petite dissertation sur les bienfaits de la réforme agraire de 42, instituée par les Allemands, qui évidemment suppriment les kolkhozes et toute l'agriculture collectivisée, ce qui était d'ailleurs un souhait caché de beaucoup de paysans soviétiques. Elle va écrire, même si elle n'en pense pas moins, elle va écrire cette dissertation, elle va aller au cinéma avec des Allemands, mais en même temps, elle n'a pas le sentiment de trahir. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'elle dit, mais moi, après, quand je serai dans ma classe, je serai seul maître à bord et je vais inculquer les bonnes valeurs soviétiques à mes élèves. Et donc, on voit cette extraordinaire, je dirais, souplesse, finalement, adaptation, qui est d'ailleurs tout le contraire d'un esprit embrigadé dans un système totalitaire, parce qu'au fond, et là j'ai trouvé extrêmement intéressant ce livre que vous présentez de Charlotte Béra sur justement les rêves sous le Troisième Reich et l'emprise extraordinaire même sur la sphère la plus privée. Alors là, je trouve au contraire une bien plus grande liberté, que j'explique d'ailleurs en partie parce que dans cette situation de catastrophe historique où elle est confrontée à une sorte de concurrence de deux propagandes, puisqu'elle a la propagande stalinienne et la propagande nazie, elle arrive finalement à faire la part des unes et des autres, et moi, je trouve qu'elle a une extraordinaire liberté de penser dans ce système.
Martine Lebovici.
C'est-à-dire que je crois que les deux situations sont finalement fort différentes. C'est-à-dire que là, comme vous le montrez, on est dans une situation un petit peu désorganisée aussi, entre les deux, entre d'une part les soviétiques, d'autre part l'armée nazie, et avec un espèce de relâchement. Aussi, c'est l'impression que ça donne dans le livre, un peu un relâchement du contrôle, du fait de cette conjonction entre les deux. Et puis, comme vous dites, c'est une région de l'Union soviétique qui n'avait pas grand intérêt pour les Allemands. Donc il y a une pression beaucoup moins forte. Absolument. Tandis que là, alors là en plus, ce qui est très étonnant, et c'est ça qui étonne Charlotte Bérat elle-même, c'est que...
En Allemagne.
En Allemagne. Donc là, nous sommes en Allemagne. Elle collecte les rêves de gens qu'elle avait autour d'elle. Les rêves sont rêvés souvent en 1933, au tout début de la prise du pouvoir par les nazis. Et donc à un moment où les choses ne sont pas encore complètement installées. Et c'est ça qui est très étonnant aussi, c'est qu'ils ont un côté... Alors justement, ça n'est pas prémonitoire, mais il y a comme une compréhension qui se fait par l'intermédiaire de l'activité onirique d'une situation qui est encore presque en germe.
Les rêves de Maria, mais aussi les rêves collectés par Charlotte Bérat sous le Troisième Reich, sont dans la marche du monde, juste après les infos sur RFI.
L'atelier des médias. La marche du monde.
J'ai fait souvent ce rêve
Je vole au-dessus de Nuremberg. J'attrape Hitler au lasso, au milieu de la réunion du parti. Et je le jette à la mer, entre l'Angleterre et l'Allemagne. Parfois, je poursuis mon vol jusqu'en Angleterre et j'explique au gouvernement, quelquefois à Churchill en personne, où se trouve Hitler et que c'est moi qui l'ai fait.
Voilà ce qu'écrit Charlotte Bérat à propos de ce rêve qu'elle a collecté entre 1933 et 1939. Ce tyrannicide, très moderne, avec enlèvement préalable du tyran, a été rêvé par un journaliste d'environ 35 ans. Ayant émigré à Prague, ce journaliste était libre, et donc libre de rêver.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée aux pensées et aux rêves de deux femmes écrivains, Charlotte Bérat, intellectuelle juive allemande. Elle a collecté en secret plus de 300 rêves d'opposants ou de victimes du régime nazi. Et Maria Yakovlevna Germanova, institutrice soviétique, elle a tenu son journal intime pendant l'occupation allemande de l'URSS. Alors ce qui est très intéressant, Martine Lévovici, dans ce projet de collecte de rêves de Charlotte Bérat, c'est qu'il est antérieur à la guerre. Elle a commencé en 1933. Comment a-t-elle procédé ?
Elle demandait autour d'elle, aux gens qu'elle connaissait, qu'elle essayait de choisir dans des professions assez différentes, de lui raconter leurs rêves. Et elle les écrivait, parfois eux-mêmes les écrivaient, et puis ce qu'elle a fait pour pouvoir les garder, parce que tout le monde sentait qu'il y avait un danger à faire ça, alors qu'on pourrait se dire, mais après tout, des rêves, ma foi, c'est de l'imagination. C'est sans importance. Mais on sentait que ça pouvait justement être dangereux que d'écrire et de faire circuler des rêves. Et elle envoyait à l'étranger, dans des bouquins ou dans des lettres, les récits de ses rêves, et elle les a récupérés lorsqu'elle a pu émigrer en Angleterre. Mais si vous voulez, ce qui est assez étonnant dans l'histoire du livre, d'une certaine façon, c'est qu'il y a deux périodes. Il y a la période de la collecte des rêves, qui est une période où cette collecte a pour elle une signification de résistance, c'est-à-dire de faire connaître au monde l'atmosphère du Troisième Reich. Et Charlotte Bérat va émigrer aux États-Unis, et c'est très longtemps après, c'est-à-dire dans les années 60, que sous l'influence d'un correspondant qui était Karl Otten, elle décide d'en faire un livre. Et donc le livre lui-même a une signification différente au moment où le livre est fait, c'est-à-dire dans les années 60, que dans les années où elle collecte les rêves eux-mêmes.
Alors effectivement, Martine Leibovici, ce second temps, ce temps de la fin des années 60, c'est un temps où Charlotte Bérat décide de publier, et elle le fait avec une interprétation qui ne sera pas du tout une interprétation psychanalytique, selon les préceptes de Freud, mais elle va chercher une interprétation politique à la lumière notamment du travail de Hannah Arendt, avec qui elle va devenir amie, Hannah Arendt, qui est également exilée. Et c'est à la lumière plutôt de la théorie du totalitarisme qu'elle va chercher à interpréter ses rêves. Quelles questions pose-t-elle justement à la lumière du travail de Hannah Arendt ?
Alors, la question qui est la sienne au moment où elle va publier ce livre, c'est de se demander ce que savaient de leur présent les sujets d'un régime totalitaire en cours de mise en place. Je crois que la grande thèse de Charlotte Bérat, c'est que dans certaines circonstances, le rêve peut être pour celui qui rêve une façon de connaître la réalité à l'extérieur de lui-même. Alors que généralement, on pense qu'un rêve, c'est absolument subjectif et que c'est en dehors de la sphère de la connaissance. Alors, le lien avec la théorie, certains éléments en tout cas de la théorie arendtienne du totalitarisme, c'est que Arendt, à certains moments, parle du totalitarisme comme une folie artificiellement fabriquée. Et qu'il y a dans cette atmosphère quelque chose qui relève de l'irréel. Les gens ne croient pas, d'une certaine manière, à ce qu'ils voient. Et c'est comme si les procédés oniriques étaient plus en contact avec le réel totalitaire que la pensée rationnelle.
Écoutons ensemble un des rêves collectés par Charlotte Behrat. Il exprime les sentiments compliqués d'un homme tiraillé entre le oui et le non à la dictature. C'est le rêve d'un ophtalmologue de 45 ans.
Les SA posent du fil de fer barbelé aux fenêtres des hôpitaux. Je me suis juré de ne pas me laisser faire s'ils viennent dans mon département avec leurs barbelés. Je me laisse pourtant faire. Je suis là, comme une caricature de médecin, lorsqu'ils enlèvent les vitres et transforment une chambre d'hôpital en camp de concentration avec barbelés. Et pourtant, je suis renvoyé. Mais on me rappelle pour soigner Hitler, parce que je suis le seul au monde à en être capable. Honteux d'en être fier, je me mets à pleurer.
Un rêve collecté par Charlotte Behrat en 1934. Elle explique d'ailleurs dans son livre qu'un des assistants de cet ophtalmo était venu travailler à la clinique en uniforme de SA. Les SA sont les membres du service d'ordre du parti nazi. Et que lui, bien que révolté, n'avait pas protesté. Martine Leibovici, selon vous, qu'est-ce qui est révélé dans ce type de rêve? Parce qu'elle fait une typologie, en fait, des rêves.
Si vous voulez, il y a cette formulation tout à fait extraordinaire. Honteux d'en être fier. Est-ce que le rêve exprime une résistance ou est-ce que le rêve est le mécanisme d'adaptation au système? Et en réalité, il faut sans doute voir les deux à la fois. Le rêve est comme le processus par lequel l'individu s'adapte. Et tout en étant en même temps gêné, honteux de cette adaptation qui se produit en lui. Et c'est pour ça que bien souvent, quelqu'un va rêver qu'il s'oppose à un Goebbels ou à un Hitler, et donc il le voit dans une certaine tenue, et au bout du compte, il se voit lui-même, à la fin du rêve, dans cette même tenue. C'est-à-dire qu'il s'est lui-même conformé à cette emprise. Et en même temps, on peut dire que le rêve est l'enclos dans lequel peut-être l'activité de pensée peut encore se réfugier.
Alors c'est assez dérangeant au fond, parce que ça remet un peu en question la situation de l'innocence de chacun face à un système totalitaire. Nicolas Werth, c'est un sujet d'ailleurs que vous abordez grâce à ce journal de Maria. Il est tout aussi dérangeant au regard de ce qu'écrit Maria, elle-même ayant grandi sous un autre système totalitaire qui est l'URSS de Staline. C'est une question qu'elle aborde au fond elle aussi.
Oui, qu'elle aborde y compris par le dessin, parce que ce qui est intéressant dans son cahier, c'est qu'il y a aussi des dessins. Bon, par exemple, ce dessin où elle dessine Staline en train de mettre des petits personnages devant les fûts des canons. À la fois, elle dit un moment, on n'a plus de chef aujourd'hui, ah, si c'était la période de Souvorov, c'est-à-dire ce grand général qui a résisté à Napoléon. Quelques temps après, elle se rend compte que, bon, elle a dit peut-être quelque chose qui n'était pas très bien par rapport aux normes, et elle dit « et Staline ». Avec point d'indice. Et en même temps, quelques pages avant, elle a pu dessiner cette caricature de Staline.
C'est très intéressant ce que vous dites sur ces dessins qui sont là, et où c'est là peut-être que s'exprime la résistance. Finalement, pas tellement dans ce qui est dit, parce que moi, ce qui me frappe beaucoup dans le journal de Maria, c'est parfois le côté très conventionnel de ce qu'elle écrit. « Ah, je voudrais que les nôtres arrivent. Où est l'armée rouge, notre grande armée, etc. » Et ce qui est très important dans l'approche de Charlotte Behrat, alors il y a évidemment l'interprétation à partir d'Hannah Arendt, mais il y a aussi le fait qu'elle était très férue de littérature, et en particulier très proche de l'expressionnisme allemand. Et dans ses rêves, il y a du grotesque, c'est-à-dire ce procédé d'exagération qui est critique et qui, en caricaturant le réel, avec un réel qui exagère lui-même, on le saisit beaucoup plus d'une certaine façon qu'avec la pensée rationnelle.
Que ce soit dans le journal intime de Maria, la petite institutrice soviétique, ou dans les rêves collectés en Allemagne par Charlotte, l'intellectuelle juive, il y a l'expression d'une ambivalence, on peut être à la fois héros et collabo.
Je rêve que je m'installe solennellement à mon bureau après m'être enfin décidé à porter plainte contre la situation actuelle. Je glisse une feuille blanche sans un mot dessus, dans une enveloppe, et je suis fier d'avoir porté plainte. Et en même temps, j'ai vraiment honte. Une autre fois, j'appelle la préfecture de police pour porter plainte, et je ne dis pas un mot.
Marschalls Leben war nur Schall und Rauch.
Göring veut me tripoter au cinéma. Je lui dis, mais je ne suis pourtant pas du parti. Il me répond, ça m'est bien égal.
Ils ont rêvé sous l'impact de la frayeur et ils ont raconté leurs rêves à Charlotte Behrart entre 1933 et 1939. Un document écrit et tenu secret jusque dans les années 60. Un véritable document sur la dictature nazie, publié pour la première fois en 66 et depuis traduit en français et préfacé notamment par vous, philosophe Martine Legbovici. On va questionner tout de suite Nicolas Werth parce que je l'ai vu éclater de rire.
Il y a ce côté, voilà, enfin, ce que vous écrivez sur le grotesque, quelque chose d'énorme. Bon, c'est le propre, qu'on lâche tout dans les rêves. Et bon, c'est vrai que c'est une lecture que je trouve un peu jubilatoire par rapport à toutes les horreurs, voilà, qu'on raconte. Mais justement, parce que c'est du domaine du rêve.
Est-ce que Nicolas Werth, justement, vous qui êtes spécialiste d'un autre système totalitaire, le système soviétique, est-ce que ce grotesque n'est pas aussi à l'image du grotesque que peut produire une dictature en voulant mettre en œuvre une vision des choses absurdes et en essayant d'en faire la norme?
Absolument, c'est une des... Quand on se souvient de Charlie Chaplin dans Le Dictateur, voilà, c'est aussi un des ressorts, au fond, qu'il avait magnifiquement rendu.
Martine Legbovici.
C'est-à-dire que dans le rêve qu'on a écouté tout à l'heure de ce monsieur qui veut écrire une lettre de protestation et au moment où il l'a fait, il ne l'envoie pas. Il y a quelque chose qu'on retrouve dans d'autres rêves aussi, c'est que le grotesque, et c'est là où il y a quelque chose de tragique aussi, c'est que le sujet se ridiculise lui-même, c'est-à-dire qu'il se ridiculise dans son rêve, à savoir qu'il veut résister, et finalement, il ne le fait pas. Et donc, ça veut dire que tous les idéaux occidentaux de liberté, d'héroïsme, etc., sont mis à bas par le totalitarisme. Et ça, chacun le ressent lui-même, c'est-à-dire que l'héroïsme est d'emblée ridicule.
Tranquille excursion familiale. Maman et moi portons un paquet de gâteaux et une sacoche avec nos papiers de famille. Soudain, un cri. Ils arrivent. Chacun des clients du café au bord de la Havel sait qui ils sont et quel est notre crime. Fuite, fuite, fuite. Je cherche une cachette en hauteur. Grimper dans des arbres? Sur une armoire dans l'établissement? Soudain, je me retrouve enfoui sous un tas de cadavres dont j'ignore comment il est arrivé là. J'ai enfin une bonne cachette. Un pur délice d'être sous ce tas de cadavres, la sacoche au papier sous le bras.
Dans son livre, Charlotte Behrart précise que cette jeune femme de 22 ans qui fait ce rêve n'est pas juive. Il se trouve qu'elle a un nez fin mais trébusqué, qui lui envahit le visage, écrit-elle. Et selon l'idéologie nazie, elle pense que tout le monde la prend pour une juive. Alors, est-ce que là, on ne rencontre pas ce que vous exposiez, Martine Legbovici, c'est-à-dire la théorie de Hannah Arendt, qui fait que la folie artificiellement fabriquée va devenir la norme, d'où cette angoisse permanente pour cette jeune femme?
Alors, pour cet aspect du livre, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas juifs et qui ont un nez busqué, ou les gens qui sont bruns, s'inquiètent parce qu'on risque de les prendre pour des juifs. Et là, ça correspond à une notation d'Anna Arendt dans Les origines totalitarisme, enfin sur la fonction de l'antisémitisme en Allemagne. C'est-à-dire que c'était évidemment une persécution contre les juifs, mais ça obligeait chaque individu non-juif à se demander s'il ne l'était pas. Et donc c'est un procédé de contrôle absolument d'une efficacité totale, parce que ça ne concerne pas que les juifs, Et ces rêves de quelqu'un qui a un effet et qui doit prouver qu'il n'est pas juif, parce qu'il peut, on peut le prendre comme tel, ça montre à quel point, et ça je ne l'ai vu nulle part ailleurs dans les analyses des historiens sur l'antisémitisme dans le Troisième Reich, la persécution des juifs inquiète chacun au plus profond de lui-même.
Après mes consultations, vers 9h du soir, au moment où je m'apprête à m'allonger tranquillement sur mon sofa avec un livre sur Matthias Grünewald, la pièce, mon appartement perd brusquement leur mur. Effrayé, je regarde autour de moi, aussi loin que porte le regard, plus de mur aux appartements. J'entends un haut-parleur hurler « Conformément au décret sur la suppression des murs du 17 de ce mois. »
Maria rêve aussi, Nicolas Werth, elle pense, elle écrit, elle, pendant l'occupation allemande en URSS de 1941-1943. C'est son activité frénétique d'écrire, et vous nous présentez ses carnets. Des carnets qu'elle ne cesse de relire. Alors pour quelles raisons, au fond, comment elle-même fait-elle usage de son journal intime, Nicolas Werth ?
C'est d'abord un confident. Elle va dire le quotidien monotone de tous ces jours. D'ailleurs, il y a un thème qui revient sans cesse, c'est l'ennui.
Absolument.
Bon, l'ennui, elle s'ennuie, et voilà. Et évidemment, elle a une attitude très ambivalente par rapport à ce journal, parce qu'à la fois, elle aimerait qu'il soit lu, et donc elle le montre aux uns aux autres. Et en même temps, lorsque certains amis s'en emparent, elle est absolument furieuse parce qu'elle a l'impression que justement le secret et puis son intimité est violée par le fait que d'autres lisent le journal.
Ça peut être dangereux également, tout de même.
Ça peut être dangereux. D'ailleurs, elle aurait pu être arrêtée 10 fois pour les notations qu'elle avait. On sait à quel point la police s'intéressait aux journaux intimes. C'était pas sans danger d'écrire. Il y a un magnifique exemple dans le journal qui a été publié en français, d'ailleurs, il y a quelques années, de Nina Lugovskaya, où c'était le journal aussi d'une jeune, mais d'un autre milieu, d'une jeune intellectuelle de Moscou. Le NKVD, lorsqu'il avait saisi, avait souligné tous les passages qui ne lui plaisaient pas, et elle a été envoyée en camp. Donc c'était une activité évidemment dangereuse. Le journal remplit toutes sortes de fonctions.
C'est le journal confident, c'est aussi le journal pour tenir, parce qu'elle est dans un isolement extrême. Oui. Il n'y a pas de poste de radio, il n'y a pas de courrier. Beaucoup de gens du village sont partis, bien évidemment.
Oui. Au fond, c'est une manière de préserver son statut d'intellectuel de village au moment où elle n'est pas encore redevenue institutrice. Et puis, évidemment, comme vous dites très justement, il y a cet isolement et au fond, ça remplace l'écriture de lettres qu'elle aurait pu envoyer à des amis. Elle est quand même très très coupée et c'est un monde aussi, c'est ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant ce côté-là, qui bruit de rumeurs puisqu'elle rapporte toutes les rumeurs qui circulent dans les campagnes à ce moment-là.
Alors, autre surprise, elle dit sa foi. Elle dit toute sa foi, elle n'arrête pas d'écrire qu'elle prie Maria aussi dans son journal.
Voilà, donc au fond, elle est à la fois la représentante de la première génération d'intellectuels soviétiques.
Donc athée.
En principe, hein, elle a une éducation athée. Et en même temps, elle est fille de paysans avec toute cette culture orthodoxe. Dans chaque jour, lorsqu'elle note la date, elle note le saint du jour. En même temps, elle ne connaît pas trop de prières parce que bon, elle n'en connaît que 3. Et en même temps, donc, dans cette situation extraordinaire, au fond, de catastrophe historique, elle se raccroche en effet à la religion.
Martine Ebovici.
Ce qui m'a beaucoup frappée dans ce journal, c'est comment l'individu, ou elle en particulier, continue d'être concerné par son sort individuel. C'est-à-dire, elle n'arrête pas de se demander, mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai 19 ans, combien de temps il me reste à vivre? Et cela sans aucun lien avec la situation politique. Est-ce que ça, par exemple, pour le NKVD, pour une censure soviétique, est-ce que ce serait dangereux que de dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me préoccupe, c'est mon sort personnel ou non.
Dire ça, ça n'aurait pas été assez pour être inquiété. Mais évidemment, tout ce qu'elle dit sur Staline, évidemment, ça, oui, bien sûr. Mais le fait, au fond, de se revenir sur son précaré et au fond de s'occuper de sa propre vie, bon, c'était aussi quand même extrêmement caractéristique de cette non-emprise ou cette déprise du système sur les esprits.
Le pouvoir de dire non, peut-être, en écrivant un journal ou en collectant des rêves, l'espoir en tout cas de jours meilleurs, s'écrivent également dans les rêves collectés par Charlotte Bérat.
J'ai gagné la Tchécoslovaquie à pied, par les monts des géants. Mais juste pour une demi-heure. Soudain, à Prague, deux camarades y sont aussi, Hilde et Walter. Un homme coiffé d'une casquette surgit et emmène les deux autres. « Je vous appellerai plus tard », me dit-il. Je commence à ranger mon sac et à préparer ce que je vais dire. On m'appelle. Avant moi, c'est le tour d'une marchande. Elle a dit quelque chose, mais on la laisse partir. Je me lance. Cette fille, je la connais depuis l'enfance. Je suis allée à l'école avec elle. L'homme à la casquette ricane. Inutile. Un type de la SS caché sur le balcon a tout entendu. Surmontant ma frayeur, je lui réponds aussitôt. Vous savez tout de moi. Alors je peux partir ? Et je peux partir. Je me demande comment je rentrerai. Comme je ne sais pas le faire à pied, je devrais prendre le train et j'aurai besoin d'un passeport. Et voici qu'apparaît quelqu'un avec 5-6 passeports dans les mains, qu'il donne aux gens qu'il appelle. Je lui en arrache un quand il passe devant moi. On me pourchasse. Je l'emporte. Alors que je suis encore en train de le feuilleter, je me retrouve devant un douanier à la gare. Je lui tends en souriant mon passeport pour qu'il le vise. « Il suffit de vouloir, » me dis-je. Et il a beau froncer les sourcils, je m'en tire.
Je m'en tire, voilà, je le répète, parce que ce sont les derniers mots exprimés dans ce rêve. Un rêve rare, Martine Leibovici, qui est un véritable rêve de refus du nazisme.
Enfin, en tout cas, parmi ceux qu'elle a collectés, ce qu'elle dit, c'est qu'elle en a trouvé assez peu. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, les rêves de liberté sont faits par des gens qui ne sont plus en Allemagne, qui sont ailleurs. Parce que l'emprise de l'atmosphère de l'Allemagne du Troisième Reich est trop forte. Et aussi, il y a tous les rêves. Il y a un chapitre spécial sur les rêves de juifs. Et avec ce rêve de ce monsieur qui s'assoit sur le banc jaune réservé aux Juifs, à côté du banc vert, et au milieu, il y a une poubelle. Et il se voit avec un écriteau où il a marqué lui-même pour les passants, « Si vous voulez, je me mets dans la poubelle ». Et là, c'est un des rêves de Juifs les plus impressionnants, comme s'il se percevait lui-même comme un déchet possible. Et les rêves de Juifs aussi sont très caractéristiques, ceux qu'elle recueille, parce que ce sont des rêves de fuite, ce sont des rêves de gens qui vont se retrouver à l'étranger et qui ne vont pas pouvoir apprendre la langue du pays étranger, comme s'il y avait une présomption de ce que peut être à l'avance l'exil, avec cet attachement effectivement que tous ces gens avaient à la langue allemande et le fait qu'ils étaient très angoissés par l'idée d'émigrer et de ne pas pouvoir s'exprimer.
Nicolas Werth, je pense à la dernière page du journal de Maria. « Maudits soient ceux qui veulent me garder en cage, sous cloche, je veux vivre, vivre, vivre. »
Et oui, c'est vraiment ce journal de jeune fille qui 19 à 21 ans, ouais, qui a une extraordinaire vitalité, une extraordinaire soif de vivre. Il y a l'ennui d'un côté, il y a cette volonté de vivre, de faire la fête.
D'aimer,
absolument. Et puis, voilà, dans une situation d'extraordinaire, au fond, incertitude, parce que elle ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Elle espère évidemment que l'armée rouge va arriver, mais en même temps les choses sont plus compliquées que ça, parce qu'avant la libération par l'armée rouge, et le journal se termine sur les derniers mois de 43, ce sont les partisans qui arrivent dans les villages, les partisans donc pro-soviétiques bien sûr, enfin, mais l'ordre qu'ils amènent n'est pas du tout celui qu'elle pensait. Ce sont des gens brutaux, qui sont misogynes comme tout, qui réquisitionnent. Voilà, et donc, dans ce moment quand même de catastrophe historique, de catastrophe, voilà, ce cri de à la fois de liberté, une certaine liberté par rapport aux idéologies, et puis tout simplement ce cri de vie.
Un grand merci à Marion Cross pour Les rêves de Charlotte Bérat, enregistrés avec les comédiens André Pomara, Elissa Loulin, Frédéric Solunto et Laura Cross. Un projet conçu avec David Hurstel, qui a reçu le soutien de Brouillon d'un rêve sonore de la SCAM. Penser et rêver sous le Troisième Reich, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompéani. Exprimez-vous sur Facebook, abonnez-vous à notre podcast. Cette émission, c'est la vôtre.